L'invité de Christelle Morancé.
Christelle Morancé, présidente de la région des Pays de la Loire, échange avec Julia de Funès, conférencière, essayiste et philosophe, à l'occasion de l'un de ses passages réguliers à Nantes.
Julia de Funès, née Julia Florence de Funès de Galarza, le 4 mars 1979 à Paris, est une philosophe et auteure française. Passionnée de philosophie, la petite fille de Louis de Funès a suivi des études dans cette discipline, obtenant un master en philosophie à l'université Paris 4 Sorbonne. Elle a également étudié la psychologie et les sciences sociales. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux du bien-être, du sens de la vie et de la gestion du temps. Soucieuse de partager ses réflexions, Julia de Funès a présenté le programme Le Bonheur selon Julia sur France 5 et animé une chronique sur BFM Business. Ainsi, en plus de ses publications, elle intervient régulièrement dans les médias, donne des conférences et anime des ateliers pour transmettre sa passion de la philosophie et ses réflexions sur des sujets aussi variés que l'éthique, la gestion du stress et la recherche du bonheur, mais aussi pour partager ses analyses sur le management et la qualité de vie au travail. Engagée dans le domaine du coaching, elle aide les individus et les organisations à trouver du sens dans leur vie professionnelle et personnelle. Son dernier ouvrage, La vertu dangereuse, les entreprises et le piège de la bien-pensance, est paru le 16 octobre 2024 aux éditions de l'Observatoire. Suivez Julia de Funès sur ses réseaux sociaux, LinkedIn, Julia de Funès, Instagram, De Funès Julia, X, @Julia de Funès.
Vous êtes diplômé de philosophie. Comment passe-t-on de l'univers des concepts et des idées au monde très concret de l'entreprise où vous avez exercé comme chasseuse de tête pendant 10 ans? Qu'avez-vous tiré de cette expérience ?
Julia de Funès. Après mes études de philosophie, je fais un DESS en ressources humaines et découvre alors le monde de l'entreprise. J'y travaille durant 10 ans en tant que salarié. Le hasard de mon parcours à la fois philosophique et RH s'avère être un atout aujourd'hui car il me permet d'allier à la vision philosophique et théorique une expérience concrète. Si mes conférences parlent aux gens, c'est que j'essaie plus que tout de parler vrai. Rien de mieux pour cela que d'avoir vécu ce dont on parle.
Christelle Morancé, aujourd'hui, vous êtes reconnue comme l'une des plus fines observatrices de notre société, avec de grands succès en librairie. Le monde du travail en particulier est votre terrain de jeu privilégié pour étudier les évolutions profondes de la société. Quel est notre rapport au travail aujourd'hui ?
Julia de Funès. Si pour ma génération, j'ai 45 ans, et les précédentes, on pouvait perdre sa vie à vouloir la gagner, comme le dit l'adage, c'est que le travail constituait une finalité à part entière. Nos parents nous disaient « trouve un bon travail et tu auras réussi ta vie ». Le travail représentait un but de l'existence. Pour les plus jeunes générations, le travail n'est plus un but, mais un moyen au service de la vie. Et ils ont raison, le travail comme la santé sont des moyens essentiels pour vivre, mais pas des finalités. De même qu'on ne vit pas pour être en bonne santé, on ne vit pas pour travailler. On espère être en bonne santé pour vivre le mieux possible, on espère un bon travail pour vivre le mieux possible. Le travail comme la santé sont des moyens essentiels et non des buts en tant que tels. Et les plus jeunes nous obligent à revoir notre paradigme.
Christelle Morancé. La généralisation du télétravail suite à la Covid a profondément transformé la vie des entreprises et des collectivités. Il correspond à une aspiration à plus de liberté dans l'organisation du travail et dans le même temps, on observe une demande grandissante des salariés à retrouver davantage de présentiel pour favoriser le lien social. Comment concilier ces deux aspirations, a priori contradictoires ?
Julia de Funès, le télétravail est systématiquement invoqué comme prétexte au délitement des liens, alors que le télétravail, 1 ou 2 jours par semaine, n'empêche en rien de revenir travailler en entreprise quelques jours ou de se retrouver pour des moments plus informels et conviviaux. Cet argument me semble donc être avant tout l'alibi de ceux qui cherchent à dissimuler la difficulté, certes plus grande avec le télétravail, qu'ils ont à organiser des moments collectifs. Il est bien plus facile d'accuser une technique que de revoir son organisation. mais ne faisons pas d'une difficulté une disqualification du dispositif. Deuxièmement, le lien social n'a pas attendu le télétravail pour se défaire en entreprise. La promiscuité de ces osmoses collaboratives que sont les open space, loin de faciliter les échanges, bâillonne la plupart du temps les collaborateurs, craignant au moindre mot de déranger leurs plus proches voisins. Enfin, loin de remplacer les bienfaits du contact réel, le virtuel permet toutefois d'en redécouvrir la saveur. On apprécie d'autant mieux les moments ensemble qu'on laissait occasionnels. On prépare d'autant mieux les réunions qu'on laissait ponctuelles. Le télétravail, bien loin de miner le collectif, le renforce et le consolide.
Christelle Morancet, notre société est traversée par des transitions radicales et profondes qui viennent bouleverser les grands équilibres. L'intelligence artificielle, IA, fait partie de ces grandes révolutions qui sont en train de transformer des secteurs entiers de l'économie, mais également nos vies quotidiennes. Quel regard portez-vous sur l'IA, qui est à la fois perçue de manière anxiogène et comme un nouvel outil au service de nos organisations humaines ?
Julia de Funès, à nous de faire des nouvelles technologies, non pas des puissances autonomes qui rivaliseraient avec nos intelligences, mais des moyens de se délester, autant que faire se peut, du purement procédural, mécanique, pour privilégier ce que nous avons en nous, pour l'heure de spécifiquement humain, à savoir les émotions, l'intelligence d'action, l'intuition et tout ce qui ne relève pas du purement rationnel. Si je prends l'exemple du recrutement dans lequel j'ai travaillé, certains éminents recruteurs se vantaient parfois d'une disposition au flair, à l'intuition, à l'inspiration alchimique, mais très souvent, ils préféraient l'occulter par peur du risque en laissant place à des critères objectifs, rationnels, comme les mots-clés, les bonnes écoles, les expériences similaires, etc. Le recrutement, qui se voulait un savoir-faire, une habileté, se réduisait en somme à une mécanique bien huilée. La décision n'était qu'une réplication, la sélection que du clonage de candidats. Finalement, le recruteur s'apparentait à une intelligence artificielle bas de gamme, puisque nous ne pouvons avoir sa puissance algorithmique. Grâce à l'intelligence artificielle, peut-être parviendrons-nous enfin à moins artificialiser nos intelligences et à cultiver ce qui fait l'originalité et l'humanité d'une intelligence.
Christelle Morancet, dans votre dernier ouvrage, La vertu dangereuse, vous n'hésitez pas à vous attaquer à des idées reçues, qui vont parfois à contre-courant de l'époque, en critiquant les excès de la bien-pensance. Est-ce que cette manière de bousculer les habitudes correspond à votre conception du rôle de philosophe ?
Julia de Funès, aujourd'hui plus que jamais, la philosophie peut nous aider à nous libérer de la moralisation, car rien n'est plus immoral, amoral et assommant pour la pensée que cette dernière. La bonne conscience et les bons sentiments ne constituent en rien une réflexion morale. C'en est même tout l'inverse. La moralisation nous fait croire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Ce dogmatisme binaire étouffe la pensée, nivelle l'intelligence et s'oppose en cela à la richesse de la réflexion morale et philosophique, qui est une discipline rationnelle et critique, qui suppose un discernement, une culture et une technicité qui s'apprennent. La réflexion morale est une étude, une matière, une discipline à part entière qui n'est pas réductible au fait d'avoir un avis sur une question. Un avis n'est pas une analyse, un point de vue n'est pas un jugement, un verdict n'est pas une réflexion. Moraliser la pensée n'équivaut pas à penser moralement. Tous ceux qui croient posséder la vérité du bien dans une forme d'assurance satisfaite ne semblent pas saisir que bien et mal s'entremêlent, que les vertus peuvent s'avérer des vices et les vices devenir des vertus. Les bons sentiments pouvant conduire au pire, les véhiculer n'est pas une garantie de bonne action. L'urgence est donc au discernement et à l'ajustement des idées. Et c'est ce que mon dernier livre propose. Il ne s'agit pas de critiquer pour s'opposer, mais de libérer pour sortir du politiquement correct et éviter de substituer à la réflexion l'expression vindicative de l'opinion majoritaire. C'est à ce prix que l'intelligence triomphera de la bonne conscience et c'est un des enjeux salutaires de la philosophie.
Christelle Morancet, dans votre livre « Le siècle des égarés », vous parlez de la question de l'identité comme d'un piège. Comment, dans notre époque, peut-on concilier cette aspiration individuelle avec notre héritage universaliste ?
Julia de Funès, force est de constater que dans une société individualisée, privilégiant le sur-mesure et le particulier, ne pas tenir compte des spécificités au nom de valeurs communes ne s'apparente plus à une noblesse universaliste, mais s'interprète au contraire comme un déni des différences, un refus des particularismes, une occultation des injustices. Si l'indifférenciation était hier le signe d'une grandeur de l'esprit humaniste, capable de dépasser les identités pour mieux se retrouver autour de ce qui nous rassemble, elle n'est aujourd'hui que le symptôme d'une indifférence coupable. En somme, cet idéal universaliste est désormais perçu comme contraire au mouvement d'individuation traversant l'ensemble de notre société et réclamant toujours plus de considération personnalisée. Il est bien évident qu'aucun individu ne peut se penser totalement décontextualisé, délié de toute appartenance. Nous sommes athées, chrétiens, musulmans, juifs, etc. Mais pour conserver le sentiment de soi tout en maintenant l'exigence universaliste, encore faudrait-il maintenir nos diverses appartenances tout en les subordonnant les unes aux autres dans un ordre hiérarchique. On se doit d'être républicain avant d'être musulman, juif ou chrétien.
Christelle Morancé, vous semblez attachée aux valeurs et aux vertus républicaines.
Julia de Funès, la légalité républicaine devrait l'emporter sur toutes autres légitimités revendiquées. Cet apprentissage des priorités est à marteler dans toutes les sphères de notre société aujourd'hui gangrénée. C'est à chacun de s'adapter à notre pays de liberté et non à notre pays de s'adapter à chacune des revendications identitaires, car seule la liberté à la fois individualisante et collective permet de s'unir tout en répondant à ce mouvement d'individuation. Individualisante, car c'est bien la liberté qui permet à un être d'exister. Toute étiquette identitaire ne fait de chacun qu'un exemplaire, un échantillon d'une catégorie plus générale, mais ne distingue et n'individualise jamais en rien. L'homme n'existe que par ses actes et ses choix qui font de lui une singularité. N'étant affaire ni de naissance, ni d'éducation, ni de position sociale, ni de couleur de peau, ni de sexe, ni de genre, la liberté est la seule puissance personnelle que chacun possède en propre, collective, car c'est bien la liberté qui permet la démocratie et la vie en commun. Si on peut certes l'améliorer sur bien des points, la démocratie reste à ce jour le modèle politique indépassable, ayant pour principe non pas l'identité mais la liberté. C'est donc autour de la liberté que nous devrions davantage nous solidariser pour maintenir notre héritage universaliste, tout en permettant à chacun de se sentir exister.
Christelle Morancé, votre grand-père est l'une des plus grandes figures du cinéma français, à tel point qu'il est pleinement entré dans l'imaginaire collectif. Quand on porte un nom aussi célèbre, il est parfois difficile de se faire un prénom. Comment avez-vous vécu cet héritage familial ?
Julia de Funès. Comme un cadeau du ciel, une chance, une grâce, mais jamais comme un privilège dont je pourrais me vanter. Mes grands-parents et parents m'ont vite fait comprendre que le talent n'était malheureusement pas génétique, qu'il fallait travailler dur pour parvenir à quoi que ce soit. Humilité et travail ont été les deux mots d'ordre de mon éducation, tout cela dans un contexte aimant et chaleureux. Je ne remercierai jamais assez mes parents et grands-parents de m'avoir appris à ne pas faire d'un nom un point de vanité, mais une exigence.
Christelle Morancé, Louis de Funès avait fait du château de Clermont au Cellier en Loire-Atlantique son domaine familial. Celui-ci a longtemps hébergé un musée Louis de Funès, il est aujourd'hui fermé. Un musée qui lui est consacré a ouvert dans le Var. Je crois que vous avez d'ailleurs soutenu sa création. Est-ce qu'il était important pour vous, au-delà de ses films immortels, qu'un lieu puisse faire vivre sa mémoire ?
Julia de Funès, je suis très attaché à ce lieu en Pays de la Loire. J'ai passé mon enfance et je suis très sensible au lieu. Je retourne régulièrement à Nantes pour des conférences et j'en profite souvent pour passer au cimetière où reposent mes grands-parents. Oui, ma famille et moi avons tenu à ce qu'un lieu, un musée lui soit consacré, non seulement pour sa mémoire, pour la pérennité du souvenir, mais aussi et surtout pour le public, raison pour laquelle nous avons, pour ainsi dire, tout mis à disposition des visiteurs, objets personnels, lettres, films de famille et souvenirs. Ce lieu n'est pas un espace froid et impersonnel comme peuvent l'être parfois les musées, mais un lieu à son image, joyeux, modeste et authentique.